C'est Jérémy. Petit message avant de découvrir votre épisode du jour, pour simplement vous demander un petit coup de pouce en quelque sorte. Je viens de prendre mon téléphone et j'ai remarqué comme quoi je suis uniquement à 12 avis d'atteindre les 200 évaluations sur Apple Podcast. Donc si jamais vous possédez un appareil de chez Apple, prenez quelques petites minutes, si jamais le cœur vous en dit, pour me laisser un avis, idéalement 5 étoiles ainsi qu'un commentaire, pour m'aider à mieux faire référencer mon podcast. Sachant que des podcasts comme les miens, généralement, ne sont pas beaucoup mis en lumière. Merci par avance et sur ce, bel épisode. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça faisait très longtemps que je n'en avais pas fait sur SoSkiller. Mais aujourd'hui, je reprends le rythme des interviews. Et j'ai eu le plaisir d'interviewer pour reprendre ce rythme-là, Benjamin Voris. Alors, qui est Benjamin Voris si jamais vous ne le connaissez pas? C'est un spécialiste en prise de parole en public. Il est formateur en prise de parole en public. Il forme à la fois des professionnels dans le cadre d'interventions en entreprise. Également, il anime des conférences et il forme également des particuliers pour prendre la parole en public. Que ce soit une prise de parole en public pour présenter un dossier professionnel, pour présenter quelque chose de scolaire, peu importe, Benjamin saura vous aider et vous aiguiller si jamais vous voulez développer votre compétence de la prise de parole en public. J'en dis pas plus, je laisse place maintenant à mon échange avec Benjamin.
Donc là, c'est parti, tu m'entends bien?
Ouais, parfait, toi aussi.
Ouais, je t'entends également, super. Alors, okay. Je vais faire à nouveau, c'est bien le bon micro, on sait jamais avec le changement de réunion.
Ah ouais, t'as raison, je vais faire pareil.
C'est bon, ça n'a pas changé de mon côté, en tout cas, ça a l'air bon.
Ouais, c'est bon pour moi aussi.
Eh ben super. Allez, c'est parti. Alors, bonjour Benjamin.
Et bonjour Jérémy.
Alors déjà, je tiens à te remercier d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast. Écoute,
c'est avec plaisir, c'est avec plaisir. C'est toujours sympa de pouvoir échanger un peu, donc profitons-en.
Profitons-en, comme tu dis. Alors, Benjamin, je t'ai connu à la base, pour resituer un peu le contexte, au travers de ta spécialité, ton ancienne spécialité qui était la gestion du temps.
Exactement.
Un formateur en ligne qui donnait des cours et des formations sur la gestion du temps.
C'est ça.
Et depuis peu, j'ai reçu une newsletter de ta part qui m'a un peu surpris, où tu annonçais publiquement que la gestion du temps, c'était fini pour toi. Et comme quoi, tu allais passer sur la prise de parole en public.
C'est ça.
Ah, ça m'a un peu surpris, effectivement. Donc, c'est pour ça que j'ai répondu directement. Je t'ai fait un petit mail. Pour demander pourquoi tu fais ça. Et donc, justement, pourquoi ce changement?
Et alors déjà, je note qu'il a fallu que j'arrête mon activité pour que tu me contactes. Mais bon, c'est pas grave, hein, je me vexerai pas. Mais
ça commence, ça envoie des pics.
Ça commençait bien. écoute, le changement, je vais essayer de ne pas partir dans tous les sens pour l'expliquer. Mais effectivement, ça fait quelques années que je travaillais sur le domaine de la productivité, de la gestion du temps. Parce que c'est d'ailleurs toujours quelque chose qui me passionne et qui m'intéresse. Mais... comment dire, je bossais, en tout cas, je travaillais en ligne. Essentiellement, même toute mon activité se passait en ligne. Et en fait, le jour où je me suis mis à 100% à mon compte pour travailler sur cette activité-là, j'étais convaincu, intimement convaincu, comme quoi, tu vas voir, on peut se tromper, j'étais intimement convaincu que j'allais adorer bosser tout seul de chez moi, tranquille, faire mes trucs dans mon coin, devoir de compte à personne. Enfin voilà, vraiment, j'avais un peu ce rêve, mais cette image idéalisée un peu de l'indépendance. Et il s'est trouvé qu'en fait, rapidement, je me suis senti, alors, je ne vais pas dire mal, mais pas aussi bien que ce que je m'imaginais en tout cas. Et le fait d'être finalement isolé, plutôt seul à travailler sur mon activité, alors ça m'a pris du temps, pas forcément beaucoup de temps à m'en rendre compte, mais plus de temps à l'accepter, c'était finalement pas quelque chose qui me plaisait. Pas quelque chose qui me plaisait parce que moi j'ai toujours été, avant de faire ça, j'ai fait pendant 13 ans, à peu près 13 ans, j'étais dans un travail d'ingénieur, j'ai été consultant, chef de projet, enfin j'ai eu pas mal de postes dans le milieu industriel, informatique industrielle. Et j'étais vraiment habitué à côtoyer des gens, à travailler avec des équipes, rencontrer des clients. Donc, j'avais une vie, on va dire une vie sociale qui était très, très riche. Une vie professionnelle même, je vais ajouter sociale, qui était très riche parce que ma vie perso, sociale reste riche. Mais ma vie professionnelle, d'un point de vue social, était vraiment chouette. Et finalement, je me suis rendu compte que de me retrouver tout seul, ça ne me convenait pas du tout. et que travailler sur le web, c'était peut-être, en tout cas dans cette forme-là, pas forcément fait pour moi. Et puis pareil, sur la gestion du temps, bah, ça faisait un petit moment que j'étais dessus. J'avais fait un peu le tour, moi, de ce que je voulais mettre en œuvre, de ce que je voulais creuser. J'avais mis en place pas mal de choses de mon côté, des choses que je garde et que voilà, je continue d'utiliser pour travailler actuellement. Mais je commençais à sentir un peu de monotonie. Et puis ça, tu vois, allié au fait ben, que voilà, socialement, c'était pas fou. Je me suis dit, ben, pourquoi pas réfléchir vraiment à ce que tu as envie de faire. Parce que ce qui me manquait finalement derrière aussi, et ça je m'en suis rendu compte un peu plus tard, c'était la notion de plaisir. Moi, je ne sais pas toi comment tu vis ton activité ou en tout cas tes projets, mais moi en tout cas inconsciemment, s'il n'y a pas de plaisir derrière dans ce que je fais, en fait rapidement ça va devenir, ça va plus justement devenir du plaisir, ça va devenir une corvée. Et à partir du moment où c'est une corvée, bah, c'est compliqué d'avancer, c'est compliqué d'avoir les résultats que tu veux atteindre. Et moi, je prenais plus de plaisir dans ce que je faisais, clairement. Donc, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui, aujourd'hui, fait que tu prends du plaisir dans tes activités, dans tes projets? Et rapidement, même très rapidement, ce qui s'est mis en lumière, c'est la prise de parole en public.
D'accord.
Est-ce que ça répond à peu près à ta question?
Ça répond très bien à ma question. Non, je ne pense pas. La seule chose sur laquelle je voulais revenir, donc, comment tu as pu savoir que c'était la prise de parole en public qui t'intéressait?
Ah, ben ça, c'est une bonne question.
Merci.
C'est une bonne question.
J'essaye de poser des bonnes questions.
En fait, et encore une fois, c'est des choses que tu as sous le nez, mais que tu vois pas forcément parce que peut-être justement elles sont trop près de ton nez, donc t'as pas le recul pour les voir. Moi, je fais du théâtre depuis quelques années, du théâtre d'improvisation, et c'est quelque chose que j'adore, mais que je fais dans un contexte personnel. Donc vraiment, de la détente, c'est du fun. Voilà, on fait des spectacles, on répète, on se prépare. C'est pas une activité professionnelle. Donc, c'est lié vraiment à ma vie, on va dire, hors boulot. Mais c'est quelque chose que j'adore vraiment, dans lequel je prends énormément de plaisir. Et c'était en 2018, je crois, on m'a sollicité pour faire une conférence, plutôt liée d'ailleurs à la gestion du temps. Mmh. Et comme je me suis dit, tiens, ouais, ça peut être sympa, j'ai dit oui, évidemment. Et en travaillant la conférence et surtout en la donnant après, tu vois, c'est comme des fois, tu as sur des trucs qui tombent dessus, tu sais pas trop, mais j'ai eu comme un déclic où je me suis rendu compte. Alors, tu vas peut-être me dire, ouais, ok, c'était super évident, mais moi à l'époque, c'était pas du tout évident. Je me suis rendu compte que ce que je faisais sur scène pour le fun, donc jouer au théâtre, pouvait aussi être fait dans un contexte professionnel et pouvait aussi être fun. Et là, je me suis dit, ok, mais en fait, peut-être que ce qui te plaît vraiment, c'est d'être sur scène, de transmettre des messages, mais plutôt à des vrais gens, pas forcément au travers du web. C'est peut-être plutôt de transmettre ce que tu sais sur la prise de parole en public, parce que voilà, moi je m'éclate quand je suis au théâtre. Donc j'ai commencé, ça a pris un petit peu de temps à mûrir évidemment, mais ça a commencé à mouliner dans ma tête et je me suis dit, ok, il y a peut-être un truc à faire là-dessus et peut-être que tu peux retrouver un peu de, même beaucoup, beaucoup de plaisir dans tes activités en t'orientant plutôt là-dessus. Mais si tu veux, la passerelle, au départ, là, dans ma tête, il n'y avait pas de connexion entre ce que tu fais pour le fun et ce que tu fais de manière pro. J'avais pas fait la connexion entre, ok, ce que tu fais pour t'amuser, pour te détendre, bah, peut-être que tu peux le transposer au monde professionnel. Et du coup, bah, en plus de te faire plaisir, tu peux en faire ton gagne-pain. Donc, c'est comme ça que ça s'est amorcé. Ça a pris un peu de temps à mûrir. J'ai fait d'autres conférences. Ça s'est particulièrement bien passé. Donc, ça m'a mis en confiance aussi. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, OK, ben, faut accélérer. Ce qui veut dire aussi, ben, et qui est encore une fois pas évident, en tout cas pour moi, faire le deuil du passé. Donc, je me dis, ben, peut-être que la gestion du temps, ben, c'est peut-être le moment d'arrêter, de passer à autre chose, on va pas dire d'enterrer le projet parce que c'est un peu fort, mais en tout cas de l'arrêter.
De tourner la page.
De tourner la page, exactement. C'est la bonne formulation. Voilà, donc la transition, tu vois, elle a été assez limpide avec le recul, mais elle a pris un petit peu de temps.
Tu as mis 2 ans à switcher, on va dire, d'activité au final.
Ouais, quasi une grosse, on va dire, une grosse année et demie, je pense.
Grosse année et demie, ouais.
Ouais, complètement.
Okay. Complètement. Et les prises de parole que tu faisais, du coup, donc à partir de 2018, c'était dans quel cadre? Un cadre professionnel? Dans le cadre de séminaire, de
conférences? Oui, c'était cadre de séminaire, exactement. Exactement. Donc, c'était plus pro parce que c'était des… ça dépendait des fois, mais c'était soit pendant des formations qui étaient données par des amis à moi ou qui me disaient, est-ce que tu pourrais intervenir, ou pendant des séminaires. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Alors évidemment, ce que je faisais au début et ce que je fais maintenant, ça n'a rien à voir non plus. Au début, c'était marrant parce qu'avec le recul, c'était hyper scolaire, hyper... Voilà, c'était pas fun du tout. Mais voilà, encore une fois, ça a pris un petit peu de temps pour prendre le recul et arriver à construire quelque chose dessus.
Oui, t'approprier ton propre style, tes propres outils, tes propres...
Complètement. Et puis, encore une fois, tu sais, le fameux syndrome de l'imposteur. Tu te dis, OK, est-ce que je suis légitime pour y aller ? Bah, vas-y, et puis on verra comment ça se passe, en fait. Hein. Et puis après, c'est du travail. Moi, j'ai beaucoup bossé. Alors, le théâtre m'aide beaucoup, mais le théâtre, c'est un contexte qui est plus, on va dire, du divertissement. Dans un contexte professionnel, il y a des codes qui sont différents. Il y a des choses aussi sur lesquelles il faut apprendre. Donc, ça prend un peu de temps, hein, forcément.
Il y a une notion de résultat également qui rentre en compte dans le cadre professionnel, je pense, qui n'est pas présent dans le cadre du théâtre.
Oui, c'est différent. Le théâtre, on est plus dans le... OK, mon but, en tout cas mon objectif, c'est que les gens passent un bon moment parce qu'ils sont là pour se détendre, pour s'amuser. Donc, on est plus dans l'optique de se dire, on va faire quelque chose de fun où ils vont... En tout cas, on va essayer de les faire rire. Quand on est dans le professionnel, il y a quand même le côté... alors, en tout cas, sur de la conférence, sur de la formation, c'est différent, mais sur de la conférence, il y a quand même le côté un peu spectacle. Les gens... Quand ils vont à une conférence, c'est quand même pour s'amuser un peu aussi. Sinon, ils vont suivre une formation. Donc, il faut arriver à mettre le curseur, on va dire, au bon niveau pour trouver un équilibre là-dedans. Donc, c'est différent.
Et au niveau du théâtre, quand tu faisais des représentations, tu étais devant combien de personnes ?
Oh, ça dépend. Ça dépend des salles. Ça peut être 20, 30, 50, 60. Ça dépend des salles. Ça dépend où on joue. Okay. Mais en fait, après, c'est propre à mon ressenti, mais pour moi, le nombre de personnes a assez peu de... C'est pas facteur de stress. C'est pas ça qui va conditionner... Alors, j'ai jamais fait des... Tu vois, par exemple, j'ai jamais fait des scènes où il y avait 1000 ou plus. Donc là, je pense que c'est encore différent. Mais on va dire entre 10 et 100 ou 200, ça fait pas forcément de grosses différences.
D'accord.
Voilà, mais après, c'est un ressenti qui est très personnel. Hein, mais sur cette échelle-là, on va dire, de spectateurs, ce n'est pas ça qui va me mettre plus de pression ou moins de pression. D'ailleurs, même quand il y a moins de monde, on va être encore peut-être même plus vigilant parce qu'on se dit, ben, s'il n'y a que 20 personnes, peut-être que les 20 vont vraiment te scruter, vont vraiment avoir 20 regards sur nous. Quand il y a 100 personnes, on sait qu'il y en a un tiers qui va peut-être être un peu sur son téléphone ou qui va discuter. C'est des contextes un peu différents.
Tu me parles de nombre de personnes. À partir de combien de personnes on peut parler de prise de parole en public ? Est-ce qu'il y a un nombre minimum de personnes ? Est-ce qu'il y a un nombre maximum de personnes ?
Pour moi, c'est pas une histoire de personnes. Pour moi, si tu as une personne en face de toi, ça peut être une prise de parole. Je te donne un exemple. Si demain, ou comme ça a dû t'arriver, moi ça m'est arrivé beaucoup de fois aussi, tu vas passer un entretien pour un boulot, pour moi c'est une prise de parole. Tu prends la parole devant quelqu'un que tu ne connais probablement pas, que tu vas devoir convaincre de t'embaucher en lui montrant, en lui expliquant ton parcours, en te présentant, en te mettant en valeur, en ayant des arguments, en défendant ta position. Donc déjà, tu es dans une prise de parole, même s'il n'y a qu'une seule personne en face de toi. Pour moi, ce qui va la définir, la prise de parole, ce n'est pas forcément le nombre de personnes, c'est plutôt le contexte. Tu vois, là, on parle tous les deux. Je ne dirais pas qu'on est dans une prise de parole, on est plus dans une conversation, un échange.
Un échange informel.
Voilà, tu vois, on est en train de discuter, comme si on était attablé ou dans un bar en train de boire un café et puis d'échanger entre copains. Ça, pour moi, c'est plus une conversation. Ce qui change, c'est le contexte et l'enjeu qu'il y a derrière. Quand tu passes un entretien, tu es dans un contexte professionnel avec un enjeu à la clé qui est potentiellement décrocher un emploi. Quand tu es au théâtre, ton enjeu, tu es dans un contexte alors qui n'est pas professionnel, mais qui a un enjeu fort, c'est que les gens passent un bon moment. Et ça, tu pourras le mesurer à la fin si tu es applaudi ou pas. Donc, tu as un enjeu, tu as un contexte. Donc, c'est plutôt ça pour moi qui définit vraiment le fait d'être dans une prise de parole ou dans une simple conversation. Même si tu es entre potes, tu te retrouves dans un groupe, vous êtes 10, tu parles avec tes amis, tu n'es pas forcément dans une prise de parole, tu es plus dans une conversation de groupe. Voilà. Après, on pourrait dire que je joue pour les mots, mais l'idée que je veux te transmettre, si tu veux, c'est plus pour moi, c'est l'histoire de contexte et d'enjeu qu'il y a derrière, pas forcément le nombre de personnes.
D'accord, intéressant. Du coup, un manager qui présente un nouveau projet à une équipe est en prise de parole ?
Pour moi, il est en prise de parole.
Okay.
Quand tu fais une prise de parole, tu as souvent un enjeu et qui, d'ailleurs, faut définir au début. Est-ce que, effectivement, tu es là pour convaincre ton équipe? Est-ce que tu es là, je ne sais pas, pour informer les gens que, il va y avoir, je ne sais pas, des licenciements dans la société dans les 6 mois qui arrivent? Donc, tu as un enjeu derrière. Et ce qui veut dire que ta prise de parole, elle a un but. T'es pas juste dans la discussion, t'as vraiment un but derrière, soit voilà, de convaincre, soit d'échanger, soit de partager, soit de présenter. Enfin, ça peut être, les objectifs peuvent être assez, peuvent être multiples, mais en tout cas t'as un vrai enjeu derrière. Il y a quelque chose de plus que juste échanger. Ça peut être de vendre un produit, de présenter une solution technique à des ingénieurs, d'expliquer un concept, de je sais pas, convaincre des clients. Voilà, mais tu as un contexte et quelque chose qui est associé, ça c'est sûr.
Et l'objectif qu'on a en tête quand on commence à faire une prise de parole, il faut déjà le travailler en amont. Il faut le préciser, il faut le poser, il faut savoir où on veut aller.
Ah oui, ouais, c'est indispensable. Ah ouais, mais c'est même pas important, c'est indispensable. Parce que si toi tu sais pas où tu vas, comment veux-tu que les gens qui t'écoutent sachent où ils vont aller? Si toi déjà avec toi-même t'es pas clair, c'est très compliqué. Après, moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'une présentation ou une prise de parole réussie, c'est une prise de parole qui a été préparée. Et pas seulement préparée dans son, tu vois, au niveau du contenu ou du texte, mais préparée dans ta diction, préparée dans où est-ce que je vais être, combien il y aura de personnes, qui sont les personnes à qui je vais m'adresser, combien de temps j'ai devant moi pour leur parler, est-ce que j'ai besoin d'un micro, est-ce que je vais pouvoir parler suffisamment fort avec ma voix. Enfin, la préparation, elle est vraiment… Toi qui as une approche holistique d'ailleurs de ce que tu m'expliquais dans ton activité, là, c'est exactement un niveau différent, mais c'est exactement la même chose. Il faut avoir une approche qui est vraiment globale. Tu peux pas faire autrement. Si tu n'es pas préparé, alors tu vas me dire « Oui, mais au théâtre d'impro, vous n'êtes pas préparé, c'est de l'impro. » Ben si, on va être beaucoup, beaucoup préparé. En amont, on est énormément, énormément préparé à justement… savoir trouver des idées rapidement, savoir rebondir sur ce que dit l'autre, savoir l'écouter, savoir capter le public, savoir quand s'arrêter, quand relancer. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de préparation, ça c'est sûr. Ça c'est indispensable pour que ce soit réussi. Moi je connais, alors peut-être qu'il y a des gens hein, qui sont naturellement, et il y en a forcément doués pour prendre la parole, mais tu as des gens qui seront bons, des gens qui sont vraiment très bons ou excellents, c'est des gens qui travaillent beaucoup, comme dans... J'ai envie de dire, dans toute compétence que tu veux développer, arrive un moment, tu n'as pas le choix que de bosser.
Est-ce qu'il n'y a pas un piège qui se cache un peu derrière le fait de trop travailler ses présentations en amont, qui est le fait de les réciter au final? C'est pas un travers qui peut se produire, qui peut se passer si on prépare trop en amont sa prise de parole?
C'est encore une fois une bonne question. Tu peux le voir de plusieurs manières. Moi, j'ai un ami qui est conférencier. Moi, je suis pas du genre à apprendre par cœur quand je vais faire une conférence. Je vais très bien connaître mon intro, ma conclusion, parce que c'est deux éléments très importants. C'est ce qui te permet d'accrocher les gens au début et c'est ce qui leur reste quand ils s'en vont. Donc ça, c'est deux parties qui sont qu'il faut très bien maîtriser. Mais après, je vais avoir le plan très précis en tête, mais je vais pas forcément apprendre mes phrases par cœur. Et j'ai un ami conférencier qui est un excellent conférencier d'ailleurs, qui fait ça depuis beaucoup d'années, qui me disait « Moi, j'apprends tous mes textes par cœur. Je connais les textes de toutes mes conférences par cœur. » Je lui dis « Mais t'as pas peur que ce soit trop… justement, que ça fasse trop robot ?» Il dit « Non, parce que je sais, une fois que je suis sur scène, je sais le rendre naturel. » Il dit « Ce que ça m'apporte surtout, c'est que ça m'apporte beaucoup de confiance parce que je n'ai pas peur d'avoir un trou. Je n'ai pas peur de me retrouver un moment à me dire « Mince, je sais plus ce que je dois dire derrière. » Il dit « Je l'ai tellement appris que je sais ce que je vais dire derrière. » Même si la phrase que je dis n'est pas exactement celle que j'ai appris, il dit « J'ai ma trame et du coup, je me sens beaucoup, beaucoup plus à l'aise. » Donc là, encore une fois, ça va être… Je pense qu'apprendre par cœur, ça va être un… Ou en tout cas, ouais, ça va être très personnel. Ça va dépendre de ta manière de fonctionner, de ta manière de retenir. Mais beaucoup de préparer, non. D'une manière globale, beaucoup se préparer, non. C'est pas… Une conférence, si elle n'est pas préparée, ça se voit. Ça se voit très vite. Ça se voit très vite. Ça se voit dans la personne qui va chercher ses mots, qui va passer son temps à se retourner derrière pour voir ses slides, pour être sûr qu'il dit bien ce qu'il a prévu de dire, qu'il ne sait pas forcément où se placer. Il y a plein de petits détails qui peuvent te trahir et qui peuvent faire que ta conférence n'est pas réussie ou ta prise de parole n'est pas réussie. Après, ça dépend encore une fois du contexte. Si tu es sur une conférence, tu as un travail en amont qui est énorme. Là, je suis en train d'en préparer une nouvelle là, pour un client. Ça demande énormément de boulot en amont. Tu vois, juste avant que tu... C'est marrant parce que juste avant qu'on s'appelle pour cette interview, j'étais en train de répéter mon intro parce que je pense avoir à peu près trouvé l'intro que je vais faire. Mm-hmm. Et j'étais en train de regarder mon ordinateur, de mettre le chronomètre pour justement... Ben, je sais combien de temps je vais avoir, donc je voulais voir si en termes de timing, c'était bon, si en termes de fluidité, c'était bon. Après, si tu fais une presse en entreprise pour ton équipe, tu ne vas pas passer 12 heures à préparer ta presse. Tu vas mettre quelques slides, tu as tes grandes infos, tu t'adresses à des gens que tu connais bien normalement. Donc, tu es encore une fois dans un contexte qui est différent. Ce qui est important, c'est l'analyse du contexte avant ta prise de parole. À qui tu t'adresses? Combien de temps? Quel est le message que je veux faire passer? C'est toujours ça qui... Je pense qu'il faut se poser comme question avant de se lancer dans la préparation.
Et quel est l'enjeu qu'il y a derrière, du coup, au final?
Et quel est l'enjeu qu'il y a derrière?
L'enjeu est important, je pense, plus il y a de préparation en amont.
Bien sûr. Là, tu vois, là, sur une conférence que je vais faire pour un client, pour moi, il y a un enjeu qui est très fort. Alors, et c'est même pas, j'ai envie de dire, l'enjeu financier, c'est vraiment l'enjeu de mon image. Les gens qui vont être là, ça va être des professionnels. C'est une occasion unique pour moi de montrer ce que je sais faire sur une conférence. Si je me plante, eh ben, l'enjeu, je suis passé complètement au travers parce que j'ai une occasion unique de présenter mon savoir-faire. Donc, pour moi, l'enjeu, là, va être très, très fort, par exemple. Donc, l'enjeu, effectivement, pour moi, c'est un critère. L'enjeu, le contexte, c'est un critère qui est vraiment déterminant.
Et quand tu prépares une présentation comme celle que tu vas t'apprêter à faire, tu procèdes comment? Tu as un plan dans ta tête? Tu le mets sur écrit? Tu as une structure déjà qui est préétablie? Tu as des outils particuliers?
Oui. Oui, alors je vais avoir une grande structure, mais tu vois, une très très globale, mais qui me sert juste vraiment de squelette. Donc, je vais avoir l'intro, ensuite je vais poser le contexte, ensuite je vais exposer les grandes idées, éventuellement bifurquer vers quelles implications pratiques ça donne, et je vais faire la conclusion. Donc, j'ai un squelette qui est très très grand. Et après, c'est marrant parce que c'est vraiment le processus créatif qui se met en marche. Donc, quand j'ai une thématique imposée où on me dit ben, j'aimerais que tu parles de ça, eh ben, je pars de cette thématique, puis je vais aller surfer sur le net, des fois je vais juste réfléchir et je pose tout en vrac. Toutes les idées que j'ai, je pose tout en vrac. Donc, je travaille beaucoup avec Evernote, ça c'est mm-hmm. le côté organisation, où je mets tout en vrac dans une note et toutes les idées, je les mets toutes en vrac parce que je sais qu'il y en a qui seront bonnes. Des fois, il y en a, je pense qu'elles seront bonnes, mais en fait, elles ne se révèlent pas si bonnes que ça. Donc, je mets vraiment, vraiment tout. Tu vois, quand je cherche le titre de la conférence, là, pour celle que je vais faire, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis à 10 titres. Tu vois, et c'est que le dixième qui, finalement, je commence à me dire, je pense que je tiens le bon truc. Donc, je mets vraiment, vraiment tout en vrac. Les idées phares que j'ai, je fais un gros brainstorm. Et après, je commence à travailler sur le squelette, donc voir quelle partie peut être à quel endroit. Comment je peux introduire le sujet, comment conclure, quel est le message que je veux faire vraiment passer. Et là, ça se structure au fur et à mesure. Mais je suis une trame, mais après, ça prend aussi du temps parce qu'il y a des idées qui mûrissent justement avec le temps. Des fois, là, il y a une idée, tu vois, ça fait 2 jours que je bloque dessus, je ne sais pas comment l'illustrer. Je sais quelle idée je veux faire passer, mais je ne trouve pas de moyen, soit en racontant une histoire, soit avec une métaphore, mais un moyen de la passer qui me convienne. Donc, je sais qu'il va me falloir un petit peu de temps pour que ça mûrisse. Et c'est souvent le cas. L'idée va me venir quand je serai en train de boire un café, quand je serai en train de me promener dehors. Je vais voir, je ne sais pas, un mec qui fait des travaux avec son marteau-piqueur et tac, ça va me donner une idée. Voilà, c'est des choses qui ne se décident pas sur certains aspects.
Ou en plein milieu de la nuit, tu vas te réveiller avec la solution.
Ça m'arrive souvent, c'est pour ça que j'ai toujours mon téléphone à côté pour noter le matin ou le soir, d'avoir des idées. Ouais. Je ne sais pas si ça te le fait, toi.
Si, j'ai acheté des stylos lumineux, moi, qui s'allument la nuit.
Ah, c'est génial.
Ouais, parce que je ne suis pas pour mal. Le téléphone, si tu veux, dans la chambre. C'est pour ça, en général, je n'ai jamais vers moi. Mais j'ai un stylo spécial, dès que tu le débouches, il s'illumine. C'est particulier, c'est ça éclaire vachement. Mais c'est très pratique.
Mais au moins, tu peux écrire. Mais c'est ça, parce que alors en plus, tu as la frustration. Tu te dis, bon, je le noterai demain. Et puis le lendemain, évidemment,
tu
as oublié.
Tu l'oublies, tu te souviens de l'idée que tu as eue, mais pas de l'idée précisément, on va dire.
Exactement. Alors des fois, elles ne sont pas toujours bonnes, mais quand même, la plupart du temps, il y a quelque chose à en tirer. Donc voilà, pour revenir à ta question, si tu veux, le processus après créatif, il prend un peu de temps. Mais j'ai un squelette sur lequel m'appuyer, sinon... Mais encore une fois, sinon, ça fait un peu bricolé, quoi. tu vois.
Bien sûr.
Si t'as pas une idée phare que tu développes tout au long de ta conférence, tu te retrouves avec un micmac d'idées et puis pour ceux qui écoutent, ça n'a plus aucun sens.
Et est-ce que tu te sers un peu des ressorts de l'écriture, des romans en général pour construire tes conférences? Avec un peu la montée en pression, la descente, la fausse bonne idée, la rechute.
Oui, alors moi, je lis beaucoup, beaucoup de thrillers, de romans policiers, j'adore ça. Et donc, c'est toujours les mêmes mécaniques qui reviennent avec, effectivement, tu vas poser le contexte, tu vas avoir une petite montée en pression jusqu'à une espèce de climax, puis soit une solution, enfin, tu as une fin d'histoire. Donc, quand tu, en conférence, et c'est assez dur à faire d'ailleurs, quand tu construis une conférence, l'idée, évidemment, c'est d'y mettre des histoires parce que c'est beaucoup plus facile pour les gens de se rattacher aux idées et puis de s'identifier et de s'en souvenir. Et mettre une vraie chute, notamment, et avoir une vraie construction d'histoire, c'est hyper important. Ouais. C'est hyper important. Complètement.
Donc, il y a un gros aspect storytelling au final dans tes présentations. Ouais.
Oui. Oui, oui. Et puis, ce que me permet le théâtre aussi, c'est que du coup, ça me permet de, plutôt que de raconter des histoires, ça me permet de les jouer.
Oui.
Quand je vais raconter l'histoire d'un personnage, plutôt que de juste la raconter, je vais incarner le personnage et je vais jouer ce qu'il fait, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui peut, comme tu me disais tout à l'heure, faire un peu aussi ma différence sur la manière d'animer une conférence, parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc, donc voilà, après, chacun ses petites spécificités. Il y en a qui font des imitations, qui le font très bien. Enfin, tout le monde a son petit truc à lui pour faire passer ses messages. Mais tu peux regarder toutes les grandes, et notamment, tu peux regarder toutes les conférences TED, TEDx. Il y a toujours des histoires derrière.
Toujours.
Et qui sont très bien construites. Même tout le temps.
Et un gros travail aussi en amont qu'on ne voit pas.
Mais qui est monstrueux.
Parce que ça semble très très simple. Les gens ont l'impression qu'ils débarquent sur scène en improvisant, alors qu'au final, il y a des semaines de préparation en amont.
Ah ouais. Et ce qu'il faut savoir, alors c'est une petite parenthèse, mais c'est que surtout sur du TED ou du TEDx, à la base, ce ne sont pas des conférenciers.
Oui.
Ce n'est pas des gens dont c'est le métier. Donc, c'est des gens qui ont une expertise, qui ont un grand savoir sur certains domaines, mais qui ne sont pas rompus à l'exercice de la prise de parole. Donc, c'est bluffant de voir ce qu'ils sont capables de faire, parce que en étant justement bien accompagnés.
Et le timing est assez court en plus. Je crois que c'est un quart d'heure par présentation sur un TEDx.
Ouais, c'est ça, 15-20 minutes, mais pas plus, hein. Donc ouais. C'est à la fois court et long.
Oui, c'est court et long.
Plus quand c'est court, c'est dur de construire une conférence parce que justement, tu as peu de temps pour passer des messages. Ça veut dire que tu dois être très impactant. Mm-hmm. Tu dois vraiment faut que ça punch quoi, c'est vraiment dur. C'est pour ça que ceux qui font ce type de conférence, c'est vraiment c'est la plupart du temps, c'est remarquable, hein, le travail qui est fait. Remarquable.
Une autre question qui me venait à l'esprit pendant qu'on échangeait. Donc là, tu prépares une conférence pour une entreprise. C'est bien ça?
Oui.
Et justement, l'enjeu, il t'est dicté? C'est pas toi qui mets en place l'enjeu, je pense, de la conférence?
Alors, ça dépend. Tu peux avoir plusieurs situations. Notamment dans le milieu des conférenciers professionnels, la plupart des conférenciers ont un certain nombre de conférences qui refont dans différentes entreprises, qui sont adaptées, bien sûr, en fonction du contexte. Mais ils vont pas à chaque fois recréer une conférence. Ça, voilà. Moi, sur ce cas-là, ça a été, c'est une demande spécifique avec un sujet spécifique, mais qui évidemment me convient très bien. Sinon, j'y serais pas allé. Mais oui, il y a un enjeu de partir de zéro et de réussir du premier coup.
Mais comment tu t'appropries toi en fait l'enjeu de l'entreprise ? Parce que du coup, tu es une personne qui est extérieure à l'entreprise, tu connais pas réellement ses problèmes, tu vis pas au quotidien de l'entreprise. Comment tu peux être légitime à présenter?
Alors là, c'est pas vraiment une entreprise, c'est une chambre de commerce et d'industrie.
D'accord, ok, c'est différent.
C'est différent, c'est dans un contexte particulier pour des gens que j'ai formés, donc je connais bien Là, pour le coup, j'ai la chance de très bien connaître le contexte. Donc mais c'est une question qui est importante que tu poses parce que ça permet justement de bien calibrer ta conférence, notamment au niveau des exemples que tu vas donner et ce que tu vas raconter. Mmh. C'est toujours pareil, c'est encore une fois histoire de contexte, qui sont les gens à qui je m'adresse. Si tu t'adresses, je sais pas, à la confrérie des boulangers, je dis n'importe quoi, tu vas pas aller leur parler d'un sujet technique informatique ou de donner des exemples qui sont complètement décorrélés de ce qu'ils font. Donc c'est très important de savoir quelles sont les personnes à qui tu t'adresses. Est-ce que tu peux avoir une conférence qui est géniale pour un certain public, mais qui pour un autre public va pas du tout leur parler ou ils vont se faire chier quoi, parce que c'est pas adapté. Donc, encore une fois, la préparation, elle est indispensable, vraiment indispensable.
Et tu travailles avec...
Si ça répond à ta question.
Si, si, parfaitement. Et tu travailles avec des outils en particulier? Je pense notamment à PowerPoint dont tout le monde se sert, mais est-ce qu'il y a d'autres outils dont tu te sers? Est-ce que tu es sans support? Comment
non,
tu travailles?
Moi, j'aime bien avoir un support, mais j'ai des supports très, très light. Donc, je mets très peu de choses dessus, soit une image, soit deux, trois mots, soit un chiffre, mais je mets très peu de choses dessus parce que le problème, c'est qu'à partir du moment où tu mets trop d'infos sur un support, les gens vont regarder le support et ils ne vont plus t'écouter. Si tu mets des grandes phrases, ils vont lire ce qu'il y a d'écrit, mais ils ne vont pas écouter ce que tu racontes. Et l'intérêt, c'est quand même qu'ils t'écoutent. Donc, le support, c'est vraiment... Il doit faire son boulot de support. Il ne doit pas se substituer à celui qui parle. Il doit vraiment supporter ses propos. Donc, apporter, soit si c'est un chiffre particulier que tu veux mettre en valeur, un zoom sur un chiffre, soit tu peux t'en servir pour faire des blagues. Là, j'ai trouvé, alors, je sais pas, elle sera peut-être pourrie, mais j'ai une image que je vais mettre en avant pour faire un peu d'humour, parce que c'est important aussi. Et donc, ça va me servir pour annoncer la chute de la blague. Donc, ça doit vraiment être un support, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, moi, je mets très peu de choses dessus. Et puis, ça reprend la structure de la conférence, donc ça permet aussi, si jamais tu as un coup de stress et un truc, voilà, une phrase que tu oublies, de te raccrocher. Tu regardes ce qu'il y a sur le slide, tu dis ah oui, j'en étais là, et tu peux réembrayer très rapidement sur ce que tu étais en train de dire si jamais tu te retrouves, voilà, comme ça peut arriver dans un coup de speed, de stress, et que tu perds un peu tes moyens. Ça donne une petite béquille pour avoir la trame, on va dire, toujours sous la main. Donc ça peut être bien aussi.
Et vu qu'on parle de trame, autre petite question, quand tu construis ta préparation, est-ce que tu prends en compte la nature de l'homme, à savoir se disperser au fur et à mesure, comment dire, au bout de 10-15 minutes, on va dire, voilà. Au fur et à mesure du temps qui passe, forcément.
Alors, 15 minutes, tous... t'es généreux.
Oui, je suis généreux.
10-15 secondes. Ouais.
10-15 secondes. Est-ce que tu prends ça en compte, justement, créer justement de l'humour, comme tu l'as dit, créer de l'interaction, créer deux, trois éléments spécifiques qui vont déclencher l'attention à nouveau chez le public? Ouais,
t'es obligé. Sinon, si tu fais pas ça, effectivement, tu les perds. C'est très dur de pas les perdre. Surtout, alors sur 15-20 minutes, non, mais même, t'es obligé.
Même 15-20 minutes, les personnes décrochent. Ouais.
Ah oui, ils peuvent décrocher. Ouais. Ce qui va faire la diff, et c'est pour ça que ça demande beaucoup de travail, c'est souvent ton introduction et la manière dont tu embarques le public dès le démarrage. Si tu les accroches pas dès le début, ça va être très dur derrière de les ramener vers toi. Les accrocher, ça peut être d'une part parce que tu racontes, mais parce que tu dégages. C'est, tu vois, bien te mettre en avant de la scène, les regarder, prendre le temps, pas parler trop vite, prendre le temps vraiment d'embarquer les gens avec toi et de les emmener vers toi. Parce qu'après, c'est très compliqué. Si tu rates ton démarrage, et moi, c'est toujours ma hantise de savoir si mon intro sera suffisamment bonne, tu rates ton démarrage pour les ramener. Et bien sûr, régulièrement, il faut faire monter quelqu'un sur scène, tu vois, c'est ce que je suis en train de bosser un petit exercice pour faire ça, donc carrément donner vraiment, vraiment plus de vie à ton truc, quoi. Donc il y a des leviers pour le faire, mais ouais, t'es obligé, sinon les gens décrochent, c'est sûr.
Et t'imposes aux personnes de monter sur scène, si personne veut venir, comment ça se passe? Ça tombe à l'eau ou...
Alors, je vais être franc avec toi, j'ai jamais fait monter personne sur scène.
D'accord, donc c'est une grande première.
Mais j'ai bien envie. Ouais, ça serait une grande première. Mais alors, sans trahir les secrets du prestidigitateur, évidemment, tu ne peux pas te permettre de te retrouver en difficulté si personne ne veut monter. Donc, il faut avoir autre secours. Si personne ne veut monter, je prévoirai autre chose. Parce que sinon, effectivement, ton truc tombe à l'eau. Si l'élément que tu veux faire, que tu veux transmettre en faisant monter quelqu'un sur scène, tu n'as pas prévu d'autres moyens de le transmettre, et bien ça veut dire qu'il va manquer un morceau à ta présentation. Donc, potentiellement, il va manquer des choses pour la compréhension, pour les gens qui t'écoutent. Donc, oui, j'aurai choix A, choix B. Quelqu'un monte, il se passe ça. Quelqu'un monte pas, il se passera ça. Je n'ai pas le choix.
Ça marche. Donc, tu prévois ça également en amont, deuxième chemin, on va dire, la solution B.
C'est clair. C'est clair. Ah oui, oui. Ah oui, sinon, en plus, là, je te dis pas le coup de stress, quoi.
Ah oui, ouais. Effectivement, personne ne lève la main, tout le monde regarde en bas.
Ah bah ouais. Ou pour peu, comme tu dis, que les gens soient pas trop connectés, impliqués, et du coup, ouais. T'es obligé de rebondir autrement. C'est, ouais, c'est pas. Moi, j'ai toujours le plan B pour ça.
Ça marche. Et autre question encore par rapport à cette fameuse conférence que tu prépares. Mmh. Décidément, je te pose beaucoup de questions.
C'est venu. Ben, c'est pas grave, c'est bien. C'est cool.
Le but. Tu ben l'animes ouais. À quelle heure?
Ça sera l'après-midi.
D'accord, début d'après-midi, fin d'après-midi.
Ouais, milieu d'après-midi. Milieu d'après-midi, normalement.
Donc, pile poil en pleine digestion, ouais. Pleine fatigue.
Ouais, un petit peu après, je pense. Ils un petit peu après, ça va. À se réveiller, si tout va bien.
On va passer
ouais.
Le pic, on va dire, ouais, fastidieux ouais. De 14 heures, grosso modo. Où là, c'est assez compliqué pour
exactement.
Ramener les personnes à soirée.
C'est... Ouais, et ben encore une fois, si tu veux les ramener, il faut
avoir encore plus d'énergie là.
Ouais. Ouais, moi, c'est ce que je fais. Ben, en formation, je fais souvent, après la pause déjeuner, je fais souvent faire des exercices, des jeux, des choses qui font que tu ne vas pas tout de suite t'asseoir sur ta chaise, sinon tu es mort. Tu perds la moitié des gens. Et tu en perdras quand même, hein, mais tu en perdras moins si tu as prévu ton coup et que tu fais faire. C'est l'avantage du théâtre d'impro, c'est que tout l'apprentissage est beaucoup basé sur des jeux et c'est des choses qu'on peut transposer complètement dans des milieux professionnels. Et encore une fois, c'est une question de contexte, mais qu'on peut transposer et qui du coup font que voilà, ça réimplique les gens et ça te remet sur les rails, ça t'évite d'avoir ce gros coup de barre du midi, comme tu dis, qui est mortel chez tout le monde. D'ailleurs, moi le premier.
Ma fin de matinée et puis début d'après-midi, en général, c'est très compliqué pour avoir l'attention des gens. On est bien d'accord.
C'est ça. Arrivé à 11h30, les gens ont faim et à 13h30, ils ont sommeil. Donc,
et souvent, voilà, entre midi et deux, c'est un gros restaurant. Donc forcément, après, on a la nourriture sur l'estomac, on est fatigué. C'est assez compliqué. Ouais.
Moi, je fais de plus en plus attention, notamment quand je donne une formation, parce que là, encore une fois, tu as un enjeu quand tu es formateur. Bah de faire en sorte que les gens qui ont payé pour être formés aient en face d'eux quelqu'un qui soit professionnel. Tu ne peux pas, toi, te permettre de faire la sieste de 30 à 14, 15. Quoi. C'est pas possible. Donc, je fais souvent gaffe à pas manger assez léger le midi pour justement pas prendre un bon burger, tu vois, frites avec une bière.
Avec beaucoup de pain, un peu de vin.
T'es foutu, quoi. Ouais, et voilà.
Nickel.
Bah là, t'es mort. Et un tiramisu en dessert, quoi.
Forcément. Histoire je vois qu'on a les mêmes goûts
tous
les deux.
D'avoir un peu de sucre, voilà.
C'est ça. Une bonne dose de sucre donc, assez élevée.
Exactement. Ou un bon coca, tiens, encore mieux. Un bon coca, ouais.
Un bon coca, c'est ça.
Mais ouais, c'est important. Alors, on peut dire c'est des trucs à la con, c'est des petits détails. Mais encore une fois, quand tu joues ton image professionnelle, tu ne peux pas te permettre de passer outre. C'est pas pro. Enfin, pour moi, c'est pas pro.
Surtout en entreprise, quand tu échoues sur une formation, le bruit court très rapidement.
Ah bah, c'est
et en sûr, général, tous, les, sûr, tous les collaborateurs sûr. Savent que tu es mauvais, façon de parler, et il y a peu de chances qu'on fasse appel à toi après.
Ah bah, c'est ça, tu peux te griller. Et inversement, si ça se passe bien, ça donne de oui. Bons résultats pour être reconduit sur des prestations. Donc,
bien sûr.
Donc oui, il y a tout intérêt à... Ouais, c'est clair.
Il y a un gros enjeu, donc une grosse réparation. On revient au début de la conversation.
Exactement.
Ça marche. Petite question maintenant. Donc avant, tu vendais des formations en ligne, principalement sur la gestion du temps.
Oui.
Donc il y a des particuliers comme moi, par exemple. Pour les formations sur la gestion de la prise de parole en public, cette fois-ci, du coup, comment on fait si on veut en apprendre plus grâce à toi? C'est possible, par exemple, moi, demain, je te sollicite en tant que particulier pour que tu me prennes les clés et les ressorts de ton métier. Ok.
Exactement. Alors, je travaille pour le moment, on va dire, essentiellement avec des professionnels parce que, tout simplement parce que j'ai encore, comment te dire, j'ai pas mal d'expérience dans du milieu industriel, des grandes entreprises, des choses comme ça. Donc, je connais bien les problématiques auxquelles font face les personnes qui sont en entreprise. C'est une problématique qui est relativement simple à expliquer. Pas forcément à résoudre, c'est que tu as souvent dans ces entreprises-là des gens qui sont de très bons experts, donc très bons techniciens, très bons dans leur domaine, mais qui ne sont pas de bons communicants. Donc, il y a souvent un travail à faire à ce niveau-là pour que des personnes qui sont voilà, des experts, qui ont une très bonne expertise, des consultants, puissent acquérir de la fluidité, gérer leur trac, leur stress dans leur prise de parole pour devenir de meilleurs communicants. Donc ça, c'est un milieu pour y être passé que je connais bien et je connais bien les problématiques qui y sont liées. Mais ça n'empêche que, et je suis en train de travailler dessus aussi, je peux accompagner des personnes, soit en individuel, soit sur de la formation de groupe, mais qui ne sont pas des professionnels. Donc des gens qu'on vit soit pour un projet perso, ça peut être, je ne sais pas, t'as un oral à préparer pour un examen ou une soutenance de ta thèse, de ton stage, des choses comme ça. Donc, ça peut complètement se décliner, on va dire, à de l'accompagnement individuel ou en groupe, mais dans un contexte pas forcément professionnel.
Ok, si jamais moi je fais la démarche de te contacter, je passe par ton site, je passe par un formulaire
oui,
spécifique.
Tu peux passer par mon site, ouais. Il y a deux parties sur la formation de prise de parole en public, la partie on va dire plus orientée entreprise et la partie plus orientée accompagnement individuel.
D'accord, je mettrai un lien en description du podcast si les gens sont intéressés pour aller plus loin.
Ah bah c'est gentil.
Bah, c'est normal, voyons. Justement, en parlant de personnes intéressées pour aller plus loin, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un pour une première prise de parole en public, ça serait lequel ?
Oh, elle n'est pas facile, celle-là.
Allez, je te donne deux conseils, si tu veux.
En fait, tout le monde ne va pas partir, si tu veux, du même point. Tout le monde ne va pas avoir les mêmes difficultés. Donc, donner un conseil générique, c'est un peu compliqué. Je vais m'expliquer. Hein. Pour moi, et c'est ce que je fais faire toujours au début, c'est d'abord de prendre conscience de tes forces et de tes faiblesses. Parce qu'il y a des gens qui vont être très à l'aise, par exemple, pour parler. Ils vont avoir une bonne diction, ils vont avoir une voix qui porte. Par contre, tu ne comprends rien quand ils t'expliquent un concept. Donc, ils sont très bons pour s'exprimer, mais très mauvais pour se faire comprendre. Mmh. Tu vois ? Donc là, le travail, il va plus se faire sur comment je construis mon message. Tu vas avoir d'autres personnes qui savent très bien construire un message, mais qui sont tétanisées quand ils vont devoir l'expliquer devant 10, 15, 20, 50 personnes. Donc là, ce qu'il va falloir travailler, c'est plutôt son stress. Comment je gère le stress avant de me présenter devant l'audience ? Voilà, comment je canalise mon trac ? Donc, je peux pas vraiment te donner un conseil qui s'appliquerait à tout le monde. Mais par contre, il y a des éléments que tout le monde peut travailler, parce qu'il n'y a pas 50 non plus composantes à travailler quand tu prends la parole, c'est de travailler sur ta capacité à gérer ton trac, donc savoir te détendre avant de prendre la parole, éliminer éventuellement trop plein d'énergie si tu as un peu trop d'adrénaline. Tu vois, tu as des choses que tu peux faire qui sont assez simples, respirer, il y a beaucoup d'exercices que tu peux mettre en œuvre si ton problème c'est le trac. Si ton problème, c'est de construire ton message, ça va être comment préparer ton travail en amont. Donc, peut-être prendre, moi, ce que je fais faire souvent, c'est prendre un plan. Tu as plein de plans qui existent, de structures qui te permettent de construire un message de manière qui soit facile à suivre par les gens qui t'écoutent. Par exemple, je ne sais pas, un plan chronologique. Je te dis une connerie. Avant, dans l'entreprise, on gérait la publicité comme ça. Aujourd'hui, on la gère de telle manière. Mais demain, vu ce que font nos concurrents, on va la gérer avec ces nouveaux outils. Donc, tu dis comment ça se passait avant, comment ça se passe aujourd'hui, comment on va faire demain. Plan chronologique, c'est le genre de plan qui marche, tu vois, qui marche à chaque fois. Donc, en fonction de ce que vraiment de là où tu es aujourd'hui et ce que tu as à travailler, la première chose à faire, c'est d'identifier où est-ce que j'ai des faiblesses et où est-ce que j'ai des points de force. Ça, tu peux peut-être le faire tout seul, mais pas toujours. Ce n'est pas forcément évident. Et c'est bien d'avoir un regard extérieur. Moi, j'ai sollicité déjà des regards extérieurs sur mes conférences pour qu'on me dise ce qu'il pouvait y avoir à améliorer. Parce que tu peux travailler ta voix, tu peux travailler ta posture. Tu vois, il y a des gens qui vont être très timides, qui vont avoir du mal à regarder les gens qui sont en face de lui pendant qu'il parle. Donc, tu peux travailler ton corps, ton regard. Il y a beaucoup d'éléments, mais le dénominateur commun, c'est en amont d'avoir réfléchi à où est-ce que j'ai besoin de travailler. Et après, tu peux effectivement avancer. Alors si, je vais te donner quand même une info qui peut être intéressante, parce que moi, finalement, j'aurais pu commencer par là. C'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Moi, à la base, je suis quand même pas quelqu'un qui était destiné, si tu veux, à parler en public. J'étais du genre à être plutôt tétanisé. Voilà, limite, ça m'est arrivé à la fac de fuir un cours d'expression orale parce que j'avais tellement peur de parler devant tout le monde que je suis parti du cours. Donc,
littéralement, t'es parti du cours.
Je suis parti du cours, j'ai eu zéro. Ouais. Ah ouais, cours d'expression. Et c'est marrant parce que c'est fou, hein. Ça s'appelait le cours d'expression écrite et orale. C'était ma première année à la fac, c'était dans les années 2000. Et la prof nous dit, pour l'examen, je vais vous donner un sujet au hasard. Et pendant 2 minutes, vous allez devoir improviser dessus.
Oh la vache.
Et avec le recul, je me dis, mais qu'est-ce que c'est trop facile. Mais à l'époque...
Ouais, mais quand on est jeune, justement, on est tétanisé devant un amphithéâtre en plus.
Bah ouais, et puis t'as tellement de mauvaises expériences du passé, de prise de parole. Où, en gros, on te demande de parler, mais on t'a jamais appris à le faire. Donc, du coup, moi, c'était l'enfer.
Et puis l'école est assez punitive par rapport à ça en général. Une personne qui passe au tableau est souvent critiquée. Dès qu'une erreur est faite, elle est montrée du doigt.
Ah, mais c'est ça.
C'est vrai que c'est assez compliqué. Le cadre scolaire ne favorise pas la prise de parole, je trouve.
Mais il ne favorise pas les soft skills, d'ailleurs, d'une manière générale.
Oui, il ne favorise pas grand-chose.
Ouais, c'est très du savoir-faire. Malheureusement,
oui. C'est de l'application, c'est du marqueur.
C'est les langues, c'est... Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est assez infernal. Donc moi, je partais vraiment de loin. Et c'est marrant parce que j'avais vraiment le... Pour moi, prendre la parole en public, c'était vraiment associé à de la douleur. Tu vois, vraiment le truc, si j'y vais, ça va me faire mal, ça va être horrible, on va me juger, je vais mourir, quoi. Je vais fondre sur place. Ça va être
il me semble que c'est une des pires peurs que l'on puisse avoir, je crois, la prise de parole en public. J'avais lu ça. Ça s'apparente presque à la peur de mourir, je crois, en tout cas.
Ouais,
lire ça quelque part, je ne sais plus où, mais...
Alors, je préférais quand même parler que de mourir, mais c'était vraiment l'enfer. Par contre, oui, quelqu'un, alors ce que je peux donner quand même comme outil qui peut être utilisé ou pour quelqu'un qui se dit, tiens, j'aimerais bien essayer de parler en public, faire des choses, c'est justement soit d'aller rejoindre des groupes type Toastmaster. Je ne sais pas si tu connais, c'est une association internationale. Mmh. Il y en a dans beaucoup de pays et notamment dans beaucoup de villes de France. Et c'est des gens qui se regroupent, je crois, une fois par semaine pour justement s'entraîner à la prise de parole en public et à faire des discours devant leur pair. Donc, moi, j'avais testé une fois à Toulouse et c'est très bien structuré, c'est très bienveillant. Ça peut être un moyen justement pour se confronter un petit peu à ça, justement dans un contexte où tu ne vas pas être jugé, tu ne vas pas être noté, tu ne vas pas être critiqué. Et voilà, où tu ne vas pas être mal, quoi. On va justement faire tout pour que tu te sentes bien. Mmh. Et après, forcément, l'autre outil qui peut être utilisé, parce que moi, c'est mon petit chouchou, c'est le théâtre, justement. Le théâtre, c'est formidable pour se détendre, on va dire, face à la prise de parole. Parce qu'encore une fois, tu es dans un contexte où la plupart des gens qui sont avec toi, ils sont dans la même situation que toi, surtout ceux qui débutent, où ils se disent « je ne sais pas trop ce que je fais là, j'avais envie de venir, mais j'ai tellement peur que je ne sais pas trop ce que je fais là ». Et encore une fois, tu es dans une ambiance qui est hyper conviviale, c'est sympa, tu rigoles. Moi, c'est ce que j'adore, c'est le côté on se marre, quoi. Tu te marres.
Ouais, c'est bienveillant.
Tout de suite, c'est bienveillant. Et du coup, au lieu d'être encore une fois dans un contexte agressif où limite tu penserais dangereux, tu es au contraire, tu es à la cool, quoi. Tu rigoles, tu sais que tout le monde va galérer, que personne va critiquer ce que tu fais, que probablement même ils vont rire de ce que tu fais. Donc, pour moi, c'est une très, très, très bonne école pour passer les premières barrières, c'est super. Vraiment.
Très c'est un cadre qui permet l'échec, en fait. Qui autorise l'échec, qui favorise l'échec même. Contrairement au cadre scolaire, comme on l'évoquait ensemble juste avant.
Bien sûr, t'es dans une approche qui est complètement différente. Mmh. Ça n'a rien à voir. Puis tu te marres. Enfin, moi, j'adore. Tu rigoles. Il se passe des trucs, des fois. Puis c'est tellement improbable que c'est vraiment un moment de détente. Mais quelque part, tu travailles beaucoup. On en parlait, c'est marrant, avec une amie un jour, on se disait ça vaut une bonne psychothérapie, une bonne psychanalyse, le théâtre. Le théâtre. Est-ce que tu prends sur toi pour dire des choses, pour faire des choses que tu ne ferais pas? Tu peux te retrouver à faire la poule devant 10 personnes. Ce n'est pas forcément le genre de truc que tu fais tous les jours. Mais tu le fais parce que tu es dans un contexte qui fait que c'est cool de le faire. Donc je trouve que c'est un excellent outil pour s'y frotter un petit peu, on va dire.
Et entre théâtre d'impro, comme toi tu fais, puis théâtre plus classique, il y a une grosse différence?
Alors moi, j'ai jamais fait de théâtre classique, mais ça me fait peur, le théâtre classique, pour tout te dire. Parce
du
que
côté par cœur un peu.
Je trouve ça beaucoup plus dur, parce qu'effectivement, déjà, il faut maîtriser ton texte pour ensuite pouvoir maîtriser ton jeu sur scène. Donc pour moi, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile. Le théâtre d'impro, à partir du moment où tu n'as pas de texte écrit, alors, il faut trouver tes idées, ça c'est sûr, mais ça se travaille aussi. Mais t'as quand même cette pression au moins de te dire faut pas que j'oublie une réplique, ou faut que je la dise dans le bon ordre, ou est-ce que c'est à moi de parler ou pas. Le théâtre, pour moi, classique, ça me ferait peur, clairement. Après, ça, comme tout, on va dire, ça se travaille, mais c'est vraiment, pour moi, je pense que c'est vraiment difficile, le théâtre, hein. Ouais, c'est une vraie, comment dire, je sais pas, une compétence, mais c'est une vraie pratique, quoi, derrière.
Et t'en fais depuis longtemps? Je ne crois pas que je t'ai posé la question.
Ça fait quelques années. Ouais, j'avais commencé à l'époque à Toulouse, peut-être en 2015 ou je sais plus trop. Mais ça fait quelques années.
Ça marche. Ah ouais.
Bah, ça va vite. En général, les premiers, enfin, je trouve, hein, en un an, il peut déjà se passer beaucoup, beaucoup de choses. J'ai vu des gens qui étaient relativement, je ne sais même pas coincés, mais timides, tu vois, réservés. En l'espace d'un an, si tu as un bon prof, tu peux faire des bonds de géant. C'est assez impressionnant, vraiment. Vraiment. Des gens vont être très timides qui, à la fin de l'année, vont monter sur scène sans souci, quoi. Alors, évidemment, avec un peu de pression, hein, mais qui vont y aller et qui vont s'amuser. Donc, ça donne de bons résultats, je trouve.
Ça marche. Et super intéressant, merci pour ces conseils déjà. Et pour terminer, est-ce qu'il y a un livre, cette fois-ci, que tu recommanderais sur la prise de parole en public? C'est un peu contradictoire de parler de livres là-dedans, mais est-ce qu'il y a un livre qui donne des conseils?
Non, parce qu'encore une fois... encore une fois, t'as plusieurs moyens d'apprendre. Tu peux apprendre en regardant des vidéos, en lisant des livres, en suivant des formations. Des livres, oui, moi j'en ai plein. Alors attends, bouge pas, je vais regarder parce que je suis à côté de la bibliothèque.
Vas-y.
J'en ai pas forcément un en tête, mais il y en a plusieurs que j'ai lus qui sont sympas. Bouge pas, je reviens. Alors, j'en ai quelques-uns sous la main. Après, c'est toujours pareil. Tu as des livres qui sont très spécifiques. Tu vois, il y en a un qui est un petit peu reconnu comme la Bible du conférencier qui s'appelle Parler en public, le guide officiel TED, qui a été écrit par Chris Anderson, donc, qui est le directeur des conférences TED. Donc, il y a énormément, énormément de choses dedans. Et c'est très orienté sur de la conférence. Donc, comment construire, structurer une conférence. Un peu ce qu'on a dit aujourd'hui, comment raconter des histoires, avoir une structure narrative. Donc, il est très, très, très orienté là-dessus. Il y en a un autre que j'ai lu cette année, que j'ai trouvé très bien, qui est un livre français, Prendre la parole pour marquer les esprits, de Adrien Rivière, qui est très bien. Beaucoup d'outils, bien fait, facile à lire. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dedans. Donc, c'est un bon livre. Après, j'ai envie de dire que c'est comme beaucoup de choses, c'est que tu peux lire beaucoup de livres, mais ça, la prise de parole, si tu ne pratiques pas, il ne se passera pas grand-chose. Tu peux savoir comment gérer le trac, en théorie, mais si tu ne t'es jamais retrouvé à devoir parler devant des gens avec justement une bonne dose de trac avant, même si tu sais ce qu'il faut faire, si tu ne t'es jamais entraîné, ça va être un peu dur. Donc, c'est pour ça que je dis, voilà, faire du théâtre, rejoindre des groupes comme Toastmaster, c'est vraiment des bons moyens pour progresser vite. Donc, ce qui va être bien, en fait, c'est d'avoir du complément, d'avoir de la pratique et puis de lire aussi à côté des choses. Ça peut être, je pense que ça peut être un bon moyen de progresser rapidement.
C'est de mettre réellement en application les conseils qu'on découvre et qu'on lit. Ouais. Et pas se limiter à les intellectualiser et puis à les garder dans un monde idéal où tout se passe bien.
Et non. Ah ben non. Puis ça donne... Puis surtout, j'ai envie de dire, sur de la prise de parole, hein, parce que.
Bien sûr.
Que ce soit professionnel, tu vois, même quand tu es formateur, que tu te retrouves devant 15 personnes à devoir faire 2, 3, 4, 5 jours de cours, si tu ne l'as jamais fait, la première, ça ne va pas forcément être évident. Hein. Donc, il faut pratiquer. Hein, pour, voilà. Tu regardais toutes les vidéos sur Internet de mecs qui jouent de la guitare, tu peux connaître tous les accords, comment on les fait. Si tu n'as jamais touché une guitare de ta vie, tu ne seras pas un bon musicien. Hein. Ça, c'est. T'as pas le choix, quoi. Faut s'y jeter, arriver à un moment.
Et autre chose très importante aussi, c'est le fait de s'approprier les outils. Je pense, en tout cas. Pas uniquement les copier, les plagier, mais réellement mettre son empreinte dessus, mettre sa marque sur l'outil.
C'est-à-dire
grosso modo, plutôt qu'utiliser un outil généraliste, c'est vraiment se l'approprier à soi, tu vois. Faire qu'un avec l'outil, peut-être le modifier un peu. Pas, comment dire, s'imposer un outil en particulier, un outil qu'on trouve peut-être bien sur le papier, mais qui ne correspond pas à 100% sur le terrain, il faut réussir à s'approprier, à le détourner, à le modeler un peu à sa sauce pour réellement être à l'aise avec.
Ouais, complètement. C'est marrant que tu évoques ce sujet. Hier, j'étais en rendez-vous toute l'après-midi avec une amie qui, pareil, travaille sur le domaine que moi et on se disait, il faudrait qu'on arrive à se construire une petite banque de base de données des exercices qu'on fait faire, tu vois, en formation, des choses comme ça, parce que en échangeant rapidement dessus, on s'est dit... On pourrait vraiment étoffer notre palette d'outils en échangeant dessus parce que moi, je vais le faire d'une manière, elle va le faire d'une manière différente. Mais comme tu dis, on peut s'approprier les outils des uns et des autres pour les mettre à notre sauce. Donc, je te rejoins bien là-dessus.
Ok, je pense que je t'ai posé les questions que j'avais à te poser. Est-ce que tu as des choses à rajouter, toi, avant de conclure ?
Pas particulièrement, juste voilà, si vraiment c'est un talent ou en tout cas une compétence que vous voulez développer, bah, trouvez un moyen de pratiquer, vraiment, vraiment. Et trouvez un moyen de le faire dans un cadre qui soit, comme on dit, bienveillant, qui soit, où il n'y ait pas une pression, un enjeu, un contexte qui mette dans le dur, mais vraiment, voilà, trouver un contexte où ça se passe bien, où c'est cool, et ça sera déjà, je pense, un très très bon point de départ pour développer cette compétence-là.
Même quitte à le faire en famille pour commencer, un repas de famille, on prend la parole sur un sujet qui nous passionne et de façon un peu indiscrète, on teste un peu
Ouais,
ses
tu
compétences.
lances un débat, tu lances sur
Ouais.
le coronavirus, tu vas avoir du
Ouais, c'est
monde qui
ça.
va répondre et là tout de suite tu vas t'exercer, ouais,
Sur la
c'est
réforme des
clair.
retraites,
C'est
sur
clair, c'est
la
clair. La
politique,
réforme des
voilà.
retraites.
Des sujets peu
Oui,
clivants,
t'as
on peut
toujours un tonton
s'exprimer.
qui. Ben exactement. T'as toujours un tonton qui ne sera pas d'accord avec toi. Donc il y a. Ouais, c'est une très bonne. Mais oui, effectivement, blague à part,
Ça va être une
ça peut
astuce un
être
peu
très bien.
détournée
Surtout
pour
si tu te
commencer, en tout cas.
retrouves. Ouais, surtout si tu te retrouves face à des gens qui sont un peu grande gueule, ça peut être assez rigolo. Ouais. Ça peut être assez rigolo.
Et vu que c'est le cadre de la famille, du coup, on risque rien, il n'y a pas réellement d'enjeu, mais on peut
Oui,
s'exercer
normalement, non,
normalement.
normalement
Ça dépend des familles, mais normalement.
tu feras. Oui, ça dépend des familles, mais normalement, ça peut le faire. Ça peut le faire. Ou les copains aussi. Les copains, ça peut être marrant.
Ah, et les
Ça
copains
peut
aussi,
être
ouais.
marrant. Je me rappelle d'un débat qu'on avait eu, mais c'était il y a déjà pas mal d'années, avec des potes sur il y avait les pro Apple et les anti Apple, quoi.
Et t'es
C'est le
chez qui,
sujet
toi?
qui vend par excellence. Moi, j'avais pas de préférence parce que je
T'es
connais pas
neutre.
spécialement Apple vu que, ouais, moi je suis toujours été sur PC, mais comme j'ai jamais utilisé
De
de
Mac.
produits Apple, j'étais pas très bien placé pour juger. Mais c'était marrant parce que tu peux aussi te positionner en tant qu'arbitre du débat. Ça
Comme
peut être
médiateur, arbitre, ouais.
ben, complètement quand tu as des journées de conférence ou même au théâtre, tu as toujours une personne, et ça c'est un métier à part entière, j'ai des amis qui le font, qu'on appelle le maître de cérémonie, qui est justement là pour s'assurer que ben, tout se cadence bien, que les échanges restent cordiaux. C'est comme le journaliste pendant les débats télévisés, quoi.
Faut que le temps de parole soit bien respecté.
Exactement, voilà. Et ça aussi c'est un métier parce que c'est vraiment pas évident. Quand il y a des interviews qu'il faut voilà, canaliser les gens, préparer les questions, s'assurer qu'on perd pas de rythme, ça aussi hein, au long d'une journée, c'est voilà. Bon, c'est encore un autre sujet, mais c'est un métier lié à la prise de parole qui est intéressant aussi.
Qui est complexe, il faut écouter les personnes, formuler les questions, créer le cadre. C'est vrai que c'est assez compliqué comme métier aussi, ouais. Et comme fonction.
Ah ouais, c'est pas évident. Et tu le retrouves dans le théâtre d'impro quand tu fais un spectacle, tu as les personnes qui jouent et la personne qui anime le spectacle, qui va dire, bah voilà, prochaine scène, vous allez voir telle chose, qui va être là pour relancer les comédiens quand ils sont un peu en galère, qui va être là pour stopper une scène quand il va voir que voilà, ça tombe un peu à plat ou qu'on est sur une super vanne et que c'est le moment d'arrêter parce que tout le monde rigole. Donc c'est encore un rôle à part, mais qui est très sympa à faire aussi.
Ça marche. Et bon, en tout cas, merci pour tout.
Eh bien, avec plaisir, c'était
Merci pour
chouette.
cet
J'espère que ça a
échange. Donc,
répondu à tes questions.
alors
Bah,
oui,
avec plaisir, avec plaisir.
sans aucun doute. Et si les personnes veulent te contacter, du coup, ce sera par LinkedIn, hein, si j'ai bien compris.
Oui, je suis plutôt actif par LinkedIn parce que voilà, c'est le réseau sur lequel
Tu
je
officies le
poste à peu
plus.
près tous les jours des choses dessus. Ouais,
Et forcément lié à
oui,
la prise de
j'officie dessus,
parole ou.
exactement. Oui, beaucoup la prise de parole. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais, complètement.
Ça marche, ok. Eh bien, merci pour tout. Et peut-être à très
Eh bien, je
vite
t'en
pour
prie.
un autre échange, sait-on
Avec
jamais.
plaisir.
Salut.
Ça marche. À bientôt. Salut.
À bientôt.
Et voilà, cet échange et cette interview avec Benjamin est maintenant terminée. Sachez que vous pouvez retrouver tous les liens qui vous mènent vers le travail de Benjamin juste en bas en description. Sachant que Benjamin aime être contacté directement par LinkedIn, il répond de façon très réactive. Donc, n'hésitez pas à le contacter de ma part si vous le souhaitez. Également, je vous mets en lien de ce podcast-là le lien vers mes newsletters privées si jamais vous n'êtes pas encore abonné. Donc, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une newsletter que je vous envoie chaque matin, du lundi au vendredi à 7 h du matin, et dans laquelle je vous partage chaque jour des astuces, des techniques, des méthodes et des outils pour vous aider à renforcer ou à développer vos compétences holistiques. Donc, cliquez sur le lien, remplissez le formulaire, inscrivez votre prénom, votre email, faites entrer et dès demain matin, vous allez recevoir votre première newsletter privée. Maintenant, je vous dis à lundi pour un nouvel épisode de Soskiller.